C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. S'il y a un endroit où la préservation de l'environnement et le développement sont intimement liés, c'est bien dans le Sahel. L'économie de cette bande de pays située au sud du Sahara repose essentiellement sur l'agriculture. Or, la croissance démographique et les aléas climatiques exercent une pression immense sur les ressources naturelles. La dégradation des sols affecte les rendements des paysans, mais ce n'est pas une fatalité, comme nous vous le démontrerons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, à travers un reportage sur la ferme de Guié qui expérimente depuis 25 ans des techniques de refertilisation des sols.
En fait, nous construisons la haie pour lutter contre la dégradation du sol, pour lutter contre la divagation des animaux, les vents, et en plus, on lutte aussi contre la désertification. En taillant les bois, on peut utiliser ces bois-là pour faire du compost, ou bien pour le stockage des bois pour la cuisine.
C'est justement pour échanger sur ces bonnes pratiques innovantes et astucieuses que pendant 3 jours, le Livelihoods Camp a réuni 150 experts et acteurs de terrain au Burkina Faso. Ils ont répondu à l'invitation du fonds de finance carbone Livelihoods et de l'ONG SOS Sahel. Rémi Emmerich, secrétaire général de SOS Sahel.
Notre objectif, c'est de sélectionner les meilleures actions, celles qui sont les plus prometteuses et celles qui sont aussi les plus innovantes, les plus faciles aussi à reproduire, de manière à ce qu'elles puissent être réutilisées, voire même d'un milieu à un autre. Par exemple, on peut avoir des initiatives sur la transformation des produits agricoles dans des régions forestières qui peuvent aussi servir au Sahel, par exemple sur des sujets comme le sésame ou comme, je sais pas, on a le manioc, on peut aller vers le niébé ou des choses comme ça, pour réellement valoriser les produits et apporter de la valeur ajoutée à l'agriculture africaine.
Parce que les défis de l'agriculture au Sahel sont nombreux aujourd'hui.
Ben oui, malheureusement, il y a encore à peu près 1 personne sur 4 qui souffre de la malnutrition. Il faut savoir qu'il y a aussi près de 200 millions de personnes qui vivent au Sahel et menacées par la désertification. Il faut aussi savoir que l'Afrique a un énorme potentiel parce qu'il y a 200 millions de jeunes qui ont aujourd'hui moins de 25 ans, entre 15 et 25 ans, qui sont prêts aussi à lancer ces innovations. Il faut pouvoir les intégrer dans le secteur agricole parce que ça reste quand même 70% de l'activité économique de ces pays. Et on sait aussi qu'en Afrique, on a le meilleur potentiel en termes de ressources agricoles pour l'avenir, pour nourrir la planète.
Et c'est valable aussi pour le Sahel, parce qu'on voit bien que c'est quand même une terre qui est extrêmement aride. Les changements climatiques n'aident pas. Hein. On voit que les périodes de sécheresse s'allongent, que les pluies sont irrégulières. Et malgré tout, vous parlez d'un fort potentiel.
Ben oui, parce qu'en fait, il y a encore tout un tas de terres qui peuvent être utilisées pour l'irrigation. Alors bien entendu, il faut créer les conditions à la fois politiques, les conditions économiques pour que les agriculteurs puissent investir sur ces terres, pour qu'ils puissent avoir accès à la terre, il faut s'en assurer. Mais par ailleurs aussi, il faut favoriser ces initiatives pour pouvoir développer la production agricole et produire pour consommer au Sahel.
Alors, quels sont les principaux défis aujourd'hui? Quand on regarde, j'ai une petite idée de la réponse, quand on regarde justement les différentes initiatives, on pourrait dire que déjà pour la production, il y a enrayer la divagation des animaux qui mangent tout et on abîme énormément les cultures, il y a la fertilisation des sols, il y a aussi les enjeux de l'accès aux semences, ça c'est juste au niveau de la production.
Oui, et après il y a d'autres défis qui concernent plus la formation, la vulgarisation, la diffusion des bonnes pratiques, les approches aussi d'adaptation du système de production agricole, associer l'élevage à l'agriculture, pas dans n'importe quelles conditions, ça ne veut pas dire nécessairement sédentarisation, ça peut être aussi créer dans les zones pastorales des zones de production, par exemple de production laitière, etc., pour pouvoir transformer et valoriser les produits issus du bétail, de manière à tirer le meilleur valeur ajoutée économique sur la production agricole et sur l'élevage. Ça peut aussi concerner les ressources forestières, comme par exemple la gomme arabique ou alors le karité. On a quelques exemples ici de valorisation de la chaîne de valeur de karité avec la transformation et aussi avec des aspects de commercialisation.
Et ce qui est intéressant dans cette agriculture en zone aride, dans des zones qui sont quand même aussi, vous le rappeliez, assez pauvres, c'est qu'il faut limiter les intrants chimiques, éviter d'acheter des semences qui coûtent trop cher, etc. Donc c'est une agriculture qui se fait en étroite relation avec l'environnement, donc qui doit être forcément respectueuse de l'environnement.
C'est impossible, en fait, de produire sans respecter l'environnement. Il est tellement menacé, déjà, qu'il faut d'abord le restaurer, il faut restaurer la fertilité des sols, mais il faut aussi, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons aussi de développement durable, utiliser toutes les ressources potentielles. Et on se rend compte qu'il y a souvent un grand gaspillage de ces ressources. On voit qu'il est possible de transformer, par exemple, les pailles en charbon de bois, qu'il est possible également de faire de la fumure organique. Et donc, l'objectif, c'est justement d'utiliser toutes ces ressources dans une approche systémique, en associant à la fois l'arbre, la terre, la fertilisation du sol, et puis l'élevage, de manière à utiliser les potentiels de chacune de ces productions.
Quels sont les principaux freins aujourd'hui, selon vous ?
Les principaux freins, c'est surtout la capacité des producteurs à avoir accès, on va dire, aux ressources monétaires pour influencer ce changement. C'est aussi leur permettre de penser qu'ils peuvent cultiver autrement.
Et la bonne nouvelle, on le voit ici, c'est que des initiatives qui marchent, il y en a plein.
Il y en a plein, oui. Et ça fait des effets démultiplicateurs parce que dès qu'on voit une initiative qui marche, on rentre dans un cercle vertueux, on pense autrement. Et la grande ambition aussi, c'est d'intéresser les jeunes à l'agriculture. Et on sent ce changement-là aujourd'hui.
Et pour que chacun vive mieux sur sa terre, il faut innover. En septembre 2014, Lively Woods et SOS Sahel ont lancé un concours « Les paysans ont du talent ». 25 lauréats ont été sélectionnés pour leurs initiatives dans la gestion des semences, la création de filières ou la formation des jeunes. Ils ont tous été invités à participer au camp au Burkina Faso. Certains ont même été distingués, comme l'association malienne Terre Jaune, qui a reçu le prix du public.
Bonjour, je suis Joël Simonet, je suis le responsable pédagogique du centre de formation Terre Jaune Mali et de la ferme école en agroécologie Benkadibou.
Qui se trouve donc à Ségou, au Mali. Alors vous avez démarré l'année dernière un projet pour former des jeunes à l'agriculture. Quelle est la philosophie du projet ?
Alors la philosophie est de créer des entreprises agricoles dirigées par ces jeunes. Pour sélectionner ces jeunes, nous avons été voir les communes autour de Ségou. Ces communes ont diffusé l'information auprès des chefs de village, qui ont diffusé l'information auprès de chefs de famille ayant des jeunes qui souhaitaient s'installer. Et nous avons pu sélectionner 20 jeunes, qui sont 16 garçons et 4 filles. Ces jeunes, aujourd'hui, sont propriétaires de leur petite exploitation de 2 hectares à 3 hectares. Et ceci est un vrai défi au Mali, où l'accessibilité au foncier n'est pas facile. Il a fallu se battre beaucoup, parce que pour avoir des papiers de propriété pour ces jeunes, c'est un vrai défi.
Surtout pour les filles.
Surtout pour les filles.
Donc ensuite, une fois qu'ils ont leur terrain, pendant 2 mois, ils reçoivent une formation de base. Alors une formation, on peut dire, en maths, en français et en sciences et vie de la terre, mais très appliquée à l'agriculture.
Et surtout à l'agroécologie. Ça commence par de l'alphabétisation, bien évidemment, parce que les jeunes n'ont pas été à l'école. Et puis une gestion simplifiée de l'exploitation agricole. Ensuite, ces jeunes viennent 15 jours au centre et 15 jours à la maison, chez eux, quoi, sur leur propre terrain, où ils reproduisent toutes les techniques d'agroécologie qui sont facilement reproductibles, puisqu'ils ont tout autour d'eux, quoi. Il n'y a plus qu'à amener les choses de la bonne façon pour que ça fonctionne.
Les 3 défis de l'agriculture au Sahel, c'est la lutte contre la divagation des animaux, la fertilisation des sols et l'accès aux semences. Comment est-ce que vous les aidez à relever ces 3 défis? Avec quel type de technique?
Alors, la lutte contre la divagation des animaux, malheureusement, on ne peut faire qu'enfermer les périmètres maraîchers. C'est à peu près la seule chose que l'on peut faire. Donc, on les aide à fabriquer des haies vives, c'est-à-dire des haies avec des arbres et des épineux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour augmenter la fertilité des terrains, on travaille sur des composts. Les composts sont faits avec les déchets des animaux qu'il y a autour d'eux, mais aussi tous les végétaux que l'on peut trouver autour d'eux. Pour augmenter la fertilité, lutter contre le parasitisme, il y a différentes techniques de paillage. Et puis la biopharmacie que l'on fabrique nous-mêmes avec des écorces d'arbres, des feuilles, et qui lutte bien contre les différents parasites.
Résultat, ils ont zéro intrant extérieur dans leur exploitation. On part vraiment de ce qui existe localement et ça c'est intéressant pour le bilan économique et pour l'environnement.
C'est intéressant pour le bilan économique, pour l'environnement, mais surtout pour la reproductibilité des choses. Ils ont tout à portée de main. Il suffit de bien les assembler.
En fait, vous formez des leaders, c'est-à-dire que les 20 jeunes qui sont actuellement en formation viennent de 20 villages différents et l'objectif c'est que les gens qui habitent autour d'eux reproduisent ce qu'ils mettent en place ?
Tout à fait. Ils vont être regardés par leur famille, leurs voisins, qui vont essayer de recopier ce qu'ils font.
La première promotion a démarré en avril 2014. Qu'est-ce qui se passe donc actuellement ? Est-ce que ça marche ?
Oui, ça fonctionne bien. On va les visiter régulièrement dans les villages, même s'ils viennent régulièrement au centre. Et on va les aider à apporter des bons conseils pour que ça marche bien dans les villages. Et pour l'installation, nous travaillons avec un organisme de microcrédit qui leur fait un microcrédit adapté à l'agriculture suivant nos conseils. Et les semences proviennent de notre ferme école où nous avons sélectionné des semences villageoises aux alentours que nous avons multipliées pour eux.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous voyez déjà les résultats dans les villages ? Est-ce que les personnes autour s'approprient ces nouvelles techniques qui viennent de la formation à la ferme école ?
Oui, ça a déjà démarré. On voit vraiment des gens s'intéresser, déjà rien qu'autour de la ferme école. Tout le monde a pris nos techniques. Tout le monde commence à pailler un peu leurs légumes et ainsi de suite. C'est très beau à voir d'ailleurs comment ça se propage relativement vite.
Votre motivation vient en partie du fait que l'avenir des jeunes au Sahel, en tout cas pour une partie d'entre eux, ce sera l'agriculture ?
Ah, c'est obligatoirement l'agriculture, et je dirais même l'agriculture au village, qui va entraîner d'autres corps de métier autour d'eux. Et puis on lutte contre l'exode rural, et notamment tous ces jeunes qui vont chercher de l'or et qui s'esquintent la santé. Et on recrée une vie au village. Et la vie au village ne peut se recréer qu'à partir de l'agriculture. Et on a tout ce qu'il faut sous la main, c'est seulement le courage et la vision de revaloriser ce métier d'agriculteur.
Bintou Koulibaly fait partie de la première promotion de la ferme école Ben Kadibou.
Donc Bintou dit tout simplement qu'elle a su que c'est un avenir pour elle. Pour pouvoir prendre sa famille en charge, elle a voulu vraiment adhérer à l'initiative et aller apprendre les techniques agroécologiques là.
Oui, mais vous étiez agriculturiste déjà, vous étiez dans un village. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de changer vos méthodes de culture, quitte à remettre en cause même celles de vos parents ?
L'agroécologie, c'est en fait l'avenir. Donc ce qu'elle faisait là, ce n'était pas ça.
Qu'est-ce que vous changez du coup dans votre méthode de culture ?
Elle dit qu'elle a vraiment compris une de ces techniques qui est très bien, la technique des paillages qui consiste à couvrir carrément le sol et que ça régénère elle-même sa terre et que ça produit, ça permet vraiment de faire une très bonne production au niveau de son exploitation.
Et aujourd'hui, comment réagit le village autour ?
Dans leur village, elles sont pressées maintenant de venir prendre cette technique-là avec Bintou pour aller faire autant dans leurs différents champs.
Et qu'est-ce que vous faites pousser, vous ? Qu'est-ce que vous cultivez ?
Elle a fait l'oignon, l'échalote, le chou, elle a fait le sésame, l'ail et autres cultures.
Vous avez combien d'enfants ?
Elle dit qu'elle a 4 enfants.
Et donc aujourd'hui, vous avez l'impression que votre avenir est assuré pour vous et votre famille grâce à cette formation ?
Elle dit que oui, ses enfants et elle, vraiment, leur avenir est assuré. Parce qu'à travers la formation qu'elle est en train de faire, quand elle va appliquer, vraiment, ce serait un aubaine pour la famille. Quoi, parce qu'ils vont produire sainement et puis nourrir.
Et Nietzsche ?
C'est Ira Nietzsche.
Autre lauréat récompensé comme l'initiative la plus prometteuse, l'université éthiopienne de Mekele qui travaille sur les plantes résistantes au changement climatique.
Je suis Mouloubrahan Balein, assistant professeur à l'université de Mekele en aménagement écologique du territoire.
Alors, vous travaillez sur la capacité des plantes à s'adapter au changement climatique. Vous travaillez sur combien de variétés ?
Right now we are promoting the ficus stoninge species.
Actuellement, nous promouvons la culture du ficus stoningi, mais nous avons déjà identifié 20 à 25 autres espèces en collaboration avec les fermiers éthiopiens.
Alors, pourquoi faites-vous particulièrement la promotion de cet arbre-là, le ficus stoningi ?
Well, because it's very versatile in terms of its.
Parce qu'il est très versatile, il est adaptable à de nombreuses situations et il résiste beaucoup à la sécheresse.
It's very highly drought tolerant, plus provides.
Parce qu'il peut servir à beaucoup de choses à la fois et fournir des bénéfices économiques concrets aux fermiers, notamment du fourrage, du bois de chauffe, mais aussi des bénéfices pour le sol et l'eau.
Quel genre de bénéfices ?
For soil and water conservation, first of all, the plant.
Pour la conservation du sol, cette plante contient beaucoup de protéines qui, lorsque elle se décompose, apporte des éléments essentiels au sol.
And the plant also is used with conservation.
Et aussi parce que la façon dont il est cultivé en haie ou en tranchée a un rôle dans la préservation de l'eau de pluie.
Et les personnes se nourrissent directement des feuilles ou ça nourrit plutôt les animaux ? Qu'est-ce qui se passe en termes de nutrition ?
The leaves are used as a feed for animals.
Les feuilles sont utilisées comme fourrage très nutritif qui permet aux animaux de produire plus, mais elles ne sont pas consommées par les hommes.
Et qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui, avec vos recherches, que cet arbre est résistant au changement climatique ?
Well, one is because of the actual experience in Ethiopia.
C'est simplement l'expérience en Éthiopie. Par exemple, pendant les grandes sécheresses des années 80, tous les arbres ont pris un aspect très séché, même les plus résistants, sauf le ficus stoningi qui est resté très vert.
Mais
c'est aussi dans sa biologie, puisque c'est un arbre succulent qui stocke de l'eau dans ses organes et qui peut la restituer lorsqu'il y a de la sécheresse.
Aujourd'hui, est-ce que cet arbre est très présent dans les paysages éthiopiens ? Est-ce que les paysans ont conscience de son importance ?
C'est un arbre qui est commun, surtout dans les zones les plus élevées, mais les gens ne sont pas au courant des usages qui peuvent en être faits.
Alors comment est-ce que vous faites pour les sensibiliser ?
Déjà, en ayant fait la preuve scientifique des bénéfices qu'il apporte, et puis ensuite, en invitant les fermiers à venir constater les modèles que nous proposons pour la culture du ficus.
Est-ce que ça marche ?
Oui, pour une raison simple, c'est que les fermiers croient plus ce qu'ils voient chez les autres fermiers que ce que leur disent les scientifiques.
C'est là où votre démarche est intéressante, parce qu'en fait, il y a beaucoup de recherches dans les laboratoires, mais souvent ces recherches n'arrivent pas jusqu'aux personnes cibles, là en l'occurrence les paysans. C'est une démarche un peu nouvelle.
Oui, en réalité, ce n'est pas si nouveau que ça. La recherche avec les fermiers existe depuis longtemps, mais elle n'est pas utilisée par beaucoup de personnes. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'elle marche. Et nous proposons donc la dissémination de greffons.
À quelle échelle ?
It depends on the funding we have. We have a very small.
Tout dépend un peu des fonds dont nous disposons. Aujourd'hui, nous avons un petit appui pour disséminer ces greffons à 10 villages qui comptent chacun 1500 personnes.
Vous avez reçu ici au Livelihoods Camp le prix de l'initiative la plus prometteuse. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Well, I am really happy. Because it shows me that.
Je suis très heureux parce que ça prouve que les gens reconnaissent notre travail et que les gens y croient. Moi, je n'ai jamais douté de cette espèce et je suis content que tout le monde le partage.
Autre initiative récompensée, l'entreprise sociale Cadafrica qui permet à des jeunes femmes ougandaises non scolarisées de devenir entrepreneurs agricoles, l'association Burkinabé Ferte qui rend les semences accessibles au plus grand nombre et le réseau Ronjad pour son système d'accès à l'information sur les prix du marché grâce au téléphone portable. Mais la plus grande réussite de ce Livelihoods Camp, c'est l'échange de compétences et le partage d'expériences entre tous ces experts et acteurs de terrain qui se battent pour la défense de l'agriculture familiale au Sahel. Merci à Léona Liu, à Vincent Perrault et à Stéphane Perrier pour leur aide logistique. Restez avec nous le temps du flash d'info. Nous partons à 60 km au nord de Ouagadougou, direction la ferme de Guié, un laboratoire d'expérience pour refertiliser les terres du Sahel. A tout de suite.